Le programme qui va suivre vous est présenté par le ministère enseigne-moi.com. Soyez transformés par l'enseignement de la parole de Jésus-Christ.
C'est pourquoi en son nom, je pose les mains sur les malades et ils sont guéris.
Jésus macht frei.
Jésus libère.
Jésus rettet.
Jésus. Nous avons la parole de Dieu.
Tout ici, cher Bodhima.
Qui renverse des chignons, des porteurs.
Qui passe du nom de chrétien au nom d'enfant de Dieu.
Deutéronome chapitre 8, s'il vous plaît. Tu es à la bonne place. Amen. Alors, ici, dans Deutéronome, eh bien, avant de vous donner exactement le verset, eh bien, je voudrais vous dire que je vais vous parler des bénédictions qui s'attachent à l'alliance que Dieu a faite avec Abraham et dans laquelle il s'est arrangé pour nous faire participer, pour nous inclure. Il faut se rappeler que les Hébreux étaient en Égypte, et en Égypte, ils étaient esclaves, ils étaient mal nourris, ils étaient maltraités, ils n'avaient pas de dignité, et ils n'avaient pas de futur. En Égypte, ils n'avaient rien qui puisse leur donner de l'espérance. La Bible nous dit qu'ils ont crié à Dieu, et du pays du pas assez, et Dieu les a fait sortir pour les amener dans le pays du plus qu'assez. Le désert ne devait être qu'une traversée de quelques jours, et en un rien de temps, eh bien, ils auraient dû passer du pas assez, écoutez bien, au plus qu'assez. Seulement, ils sont restés plus longtemps que prévu dans le désert, où il s'est trouvé qu'ils ont vécu dans le pays du juste assez. Juste assez à la fin du mois. Juste assez pour payer les factures. Juste assez pour aller au restaurant. Juste assez pour s'acheter la baguette de pain et pas le pain préféré que l'on aurait souhaité. Dans le pays du juste assez. La Bible nous donne une leçon à nous qui sommes sous le Nouveau Testament, c'est qu'ils sont, s'ils sont restés plus longtemps dans le désert, s'ils sont restés plus longtemps dans le pays du juste assez, c'était à cause de leur ingratitude, à cause de leur manque de reconnaissance. Et c'est vrai que quand on sait d'où on est sorti du pays du pas assez, on n'était pas assez en règle avec Dieu pour être sauvé. On n'était pas assez pardonné pour vivre libre. On n'était pas assez pardonné pour pardonner les autres. On n'était pas assez conscient de Dieu pour avoir la perspective de l'éternité. Et Dieu nous a fait sortir des ténèbres pour nous amener dans le pays de la lumière. Et il s'attend à ce que nous ayons de la reconnaissance. Il s'attend à ce que nous lui disions merci. Quand il y a des situations qui sont bloquées dans notre vie, il peut y avoir plusieurs raisons, mais une des raisons pourrait être l'ingratitude. Ne pas avoir pris le temps de dire « Mon Dieu, je veux penser à ce que tu as fait pour moi, je veux réfléchir de là où j'étais à là où je suis maintenant et je veux prendre le temps de t'honorer et de dire merci Seigneur. » Mais finalement arrive le moment où il y a une génération qui va croire que la promesse de Dieu est plus grande que les circonstances, qui ne va pas se laisser impressionner par les géants, qui ne va pas se laisser impressionner par les problèmes, et qui dit « En dépit de ce que je crois, en dépit de ce que je ressens, Dieu a raison, et je vais rentrer dans la dimension que Dieu a pour moi. » Non pas en fonction de mes diplômes, non pas en fonction de mon compte en banque, non pas en fonction de ma famille, mais en fonction de Dieu, c'est Dieu qui me donne un futur. Et cette génération a accepté de croire, et Dieu était sur le point de les faire rentrer dans la terre promise, c'est-à-dire la terre du plus qu'assé. Et il leur dit au verset 12, vous avez trouvé Deutéronome, chapitre 8, il est dit, au verset 12, « Lorsque tu mangeras et te rassasiras, Lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque ton gros et ton menu bétail se multiplieront, que l'or et l'argent se multiplieront pour toi, et que tout ce qui est à toi se multipliera, prends garde de peur que ton cœur ne s'élève, et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu. Verset 17, comment il est possible d'oublier? Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la vigueur de ma main m'ont acquis ces richesses. C'est-à-dire, fais attention, non pas seulement à ce que tu dis, mais à ce que tu acceptes de penser dans ton cœur. C'est-à-dire, quand tu es arrivé au stade où tu peux manger, mais pas seulement manger, aujourd'hui, sans Dieu, on peut manger. Quelqu'un qui n'a pas d'argent peut manger sans Dieu aujourd'hui, grâce à toutes les aides sociales que l'on a. Mais là où on voit que Dieu est dans ta vie, c'est quand tu peux manger au point d'être rassasié. Et je ne parle pas de manger 3 plats de pâtes en un seul repas avec un petit filet d'huile d'olive parce que tu n'as rien d'autre à te mettre sous la dent. Je parle de manger au point de te rassasier des bonnes choses que notre pays produit, importe et exporte. La Bible nous dit que si tu es docile et obéissant, si tu es de bonne volonté, tu mangeras les meilleures productions du pays. Quand il est dit que dans la terre promise c'est quoi? L'Égypte était un symbole du pays des ténèbres quand nous étions séparés d'avec Dieu. La terre promise n'est pas un symbole du ciel. Le ciel, c'est pas la terre promise, parce que dans la terre promise, il y avait des géants, et au ciel, il n'y a pas de géants, il n'y a pas de problème. La terre promise, c'est la qualité de vie que l'on peut expérimenter sur terre, c'est-à-dire les victoires que l'on peut vivre sur terre parce que nous croyons dans le Dieu qui a fait les promesses. On ne croit pas simplement dans les promesses, on croit dans le Dieu qui se tient, qui réalise les promesses qu'il a données. Amen. Et ici, Dieu dit, lorsque tu entendras que tu peux manger, eh bien fais-le au point d'être rassasié. Il est dit que dans ce pays, là, ce que Dieu veut pour toi, c'est que non seulement tu manges les meilleures productions du pays et que tu sois rassasié, il est dit, il veut que tu bâtisses et que tu habites de belles maisons. Dieu n'a pas l'intention que tu habites des toiles sous des toiles de tente avec des problèmes d'électricité ou de plomberie. Ça n'est pas le futur que Dieu a pour toi. Dieu veut que tu habites de belles maisons. Pas forcément quelque chose qui sera beau pour quelqu'un d'autre, mais quelque chose qui sera beau à tes yeux. Et dis-toi bien, une chose, c'est que si tu marches avec Dieu suffisamment longtemps, il perfectionnera ta définition de la beauté. Il affinera tes goûts au point que tu verras une forme de beauté plus une autre forme de beauté, parce que la beauté se trouve en Dieu et la beauté fait partie de la créativité de Dieu. Je crois que Dieu a promis à son peuple qu'il veut que nous habitions, c'est-à-dire que nous soyons propriétaires de belles maisons. Alors si tu n'es pas encore propriétaire, sache qu'il importe à Dieu que tu le deviennes. Moi, ma foi est exercée pour que je le sois. Déjà, avec ma sœur, on est propriétaire d'un terrain, mais ça ne me suffit pas. Je veux plus que ça parce que mon Dieu parle de maison ou d'appartement. Donc, il y a quelque chose pour moi, mais un ne suffit pas parce que la Bible nous parle du pluriel, de belles maisons. Mais comme nous, les chrétiens, on est très humbles, définition religieuse, on est bien content de louer une maison et on ne pense même pas à en posséder une. Et si on en a une, on ne pense certainement pas en posséder deux ou trois, parce que dans notre attitude religieuse, on se dit, mais moi j'ai assez avec une. Espèce de petit égoïste. C'est vrai que pour toi et ton ombre, tu as assez avec une maison. Seulement si tu veux faire la volonté de Dieu et être une bénédiction, pourquoi ne pas avoir 1, 2, 3, 4 maisons et dire à des chrétiens qui ont des difficultés, qui passent par un temps difficile, tu sais quoi? Je vais t'en passer une là, tout de suite. Il suffit que tu ailles là, voilà la clé, et reste-y jusqu'à ce que tu sois capable de te tenir sur tes pieds. Ou de dire à une famille de missionnaires, tenez, venez pendant 2-3 mois à la maison, il y a un appartement, toutes les factures sont payées, simplement appréciez la piscine. Seulement, il faut accepter de penser comme Dieu. Il est temps, vous savez, je me rappelle, je n'ai pas oublié cette vision que Lucie avait partagée à la conférence de la foi. Cette vision qui parle d'une grande bulle, d'une grande membrane exactement, dans laquelle il y avait toutes sortes de bénédictions, hautes technologies, de grandes sources et ressources qui étaient à la disposition des chrétiens. Et la vision disait que la prière avait fini par faire des percées dans cette membrane. Il y avait des choses qui commençaient à tomber au goutte à goutte. Mais ce que Dieu voulait, c'était déverser. Moi, je vois des choses qui commencent à tomber au goutte à goutte dans ma vie personnelle et dans l'Église. Mais moi, je suis après un déversement. Je suis après le fait que les écluses des cieux soient ouvertes au-dessus de nous. Seulement, même avec les écluses des cieux ouvertes au-dessus de nous, il y a des gens qui sont dans le corps de Christ et qui ne modifieraient pas leur façon de vivre. Pourquoi ? Parce qu'ils ont les bras croisés. Et ils sont incapables de recevoir d'un Dieu qui est généreux parce qu'ils croient qu'ils doivent vivre dans la pauvreté et remercier le Seigneur en même temps. Quelqu'un dit, prêche pasteur. Alors ici, 3 personnes, merci pour ces 3. Je prêche mieux que ce que vous réagissez. Vraiment. Dieu lui dit, quand vous serez rentrés dans la terre promise et que là vous serez sur le point de prendre possession par la foi de tout ce que je vous ai donné, sachez que je veux que vous soyez rassasiés, que vous mangez jusqu'à ce que vous n'en pouviez plus. Ça ne veut pas dire avec excès, mais plutôt avec modération, hein. Mais dans le rassasier, moi j'entends produit de qualité. Et si vous connaissez votre pasteur, vous savez qu'elle aime bien manger. Voilà, donc ce verset m'intéresse, hein. Et habitez de belles maisons. Si vous trouvez que mon appartement est beau, je vous garantis, vous n'avez rien vu, attendez le prochain. Parce que je sais qu'il y a un prochain qui arrive. Il est au bout des doigts. Je suis prête à faire mes valises pour plus. Je ne sais pas si on le sait, mais je vais vous dire, je suis rentrée en juillet à la maison. Et quand je suis rentrée à la maison, j'ai trouvé que c'était trop petit. Et ça m'a dérangée. Je suis rentrée à la maison, j'ai dit, ouh, ah, je me sens à l'étroit ici. Et quand j'ai ressenti ça, j'ai dit, Seigneur, il est temps qu'on déménage. Il est temps qu'on passe au prochain. Voilà, maintenant que j'ai choqué certains, on va passer au verset 18. Il est dit, la Bible ne dit-elle pas qu'on va de gloire? Hein? Hein? On va de gloire? Moi, je ne crois pas dans le fait d'acheter une maison pour la vie. J'y crois pas à ça. On a vu que le diable s'est arrangé en faisant croire aux parents qu'ils devaient habiter, peut-être ça va aider quelqu'un, qu'ils devaient habiter dans la maison des grands-parents. Et après, quand ils avaient habité dans la maison des grands-parents, paf, ils la filaient aux enfants avec un grand sentiment de culpabilité en disant, si tu vends la maison de ton arrière-grand-père, mon fils, je te renie. Dieu est un Dieu qui bouge. Et Dieu est un Dieu qui va de gloire en gloire. Quand tu as atteint une certaine forme de gloire, Dieu veut que tu passes à une autre gloire. Maintenant, si toi tu veux t'accrocher à tes vieilles pierres, et si tu ne veux pas bouger, tu n'expérimenteras jamais la gloire que Dieu a pour ta vie. Quelqu'un dit, Seigneur, change mes goûts. Parce qu'à moins que le Seigneur ne fasse, tu risques de toujours habiter dans le même quartier. Même s'il est beau, dis-toi bien qu'il est encore plus beau. Et tu dis, ça a de l'importance? Oui, réécoute le message que j'ai prêché, dont le titre est, si je me souviens, « Ta prospérité glorifie Dieu ». Comme je sais que personne ne s'en rappelle, c'est Jean-Pierre qui va qui peut vous aider avec la cassette ou le MP3. Verset 18, le Seigneur dit, « Quand tu seras arrivé au ce stade où tu es béni, il dit, tu te souviendras de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne la force pour acquérir ses richesses afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui son alliance qu'il a jurée à tes pères. Rappelle-toi que quand tu vois ce degré de prospérité, si déjà tu es content parce que tu trouves que ta vie a changé, gloire à Dieu, hein, sois sensé et dis merci Seigneur. Mais quand tu vas vivre au stade où tu auras des maisons, bon, on va, hein, au moins deux, propriétaires, quand tu seras au stade où tu iras à l'épicerie la plus fine et tu pourras dire, donnez-moi ça et ça et ça et ça. Et vous savez, quelquefois, il m'est arrivé d'aller au restaurant et le serveur ne voulait plus nous servir parce qu'il trouvait qu'on avait trop commandé. Ça vous est déjà arrivé? Que le serveur vous dise, arrêtez! C'est vrai? Arrêtez parce que vous avez commandé trop, vous ne mangerez jamais tout ça. Écoutez, juste, quel est le problème à laisser ce qu'il y a de trop sur l'assiette? Vous savez que quelquefois, les gens finissent de manger ce qu'il y a dans l'assiette parce qu'il y a un esprit de pauvreté. Écoutez bien, les déchets sont les déchets. Je le dis avec autant de tact que je peux, mais un déchet, c'est un déchet. Prenez-le comme vous voulez, mais c'est une chose de respecter la nourriture. Et je suis pas pour le fait de la traiter avec mépris, parce que c'est une bénédiction. Et on peut rendre gloire à Dieu. Mais quand on est au stade où on dit « je vais finir juste au cas où » ou « je vais finir parce que il y a un moment de ma vie où… » Non, ça, c'est quelque chose qui va avec l'esprit de pauvreté. Si vous avez mangé suffisamment et que vous dites « je fais preuve… » Je ne sais pas pourquoi je raconte tout ça, c'est pas dans les notes de toute évidence, mais ça va aider quelqu'un. Ou ici, ou par… cassette. Mais quand on a mangé suffisamment, on est rassasié, on n'a pas besoin de finir une assiette, même s'il en reste encore beaucoup. Qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Preuve d'une maîtrise de soi ou alors de suivre un esprit de pauvreté qui dit tu termines ton assiette parce que un jour on a manqué. Voilà. Simplement, Je veux que l'on entre dans une mentalité de le manque, ça n'est plus pour moi. Et rappelez-vous qu'un déchet, c'est un déchet. On continue. Tu te souviendras de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne de la force ou alors de la puissance pour acquérir toutes ces richesses. Alors ici, on sait que ça a à voir avec la bénédiction. La bénédiction, ça n'est pas avoir une nouvelle voiture, avoir une maison ou donner 1 000 euros de plus en dîme. Ça, c'est le fruit de la bénédiction. La bénédiction, c'est la puissance de prospérer. Dans cette puissance de prospérer, il y a la sagesse. Dans la puissance qu'est la bénédiction, il y a la faveur. C'est là que c'est notamment ce qui fait que les gens, quand ils vous voient, ils vont dire, écoutez, je ne sais pas pourquoi, mais je vais vous faire une ristourne aujourd'hui. Allez, c'est mon jour. Bénédiction. Ou alors, je ne sais pas pourquoi, mais normalement, je ne fais jamais cela, mais je vais vous rendre ce service. Allez, je vais le faire pour vous. Ça s'appelle la bénédiction. Et croyez-moi, mes amis, humainement, on ne la fabrique pas. Ou on la porte, ou on ne la porte pas. Et ensuite, le Seigneur parle d'une alliance qu'il a jurée à nos pères. Est-ce que tu réalises qu'à chaque fois que tu prospères dans un des domaines de ta vie, cela donne gloire à Dieu dans le sens qu'il est en train de confirmer, de réaliser une alliance qu'il a jurée à nos pères. Alors on pourrait dire, oui mais attends, tu parles d'une alliance, mais là on parle des Juifs, moi qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? Si tu écoutes suffisamment longtemps, tu verras ce que tu as à voir là-dedans. Et il y a une bonne nouvelle pour toi qui te permettra même de mieux vivre. Mais déjà, ce que je voudrais, c'est établir une différence entre une alliance et un contrat. La différence est énorme. Dans une alliance, c'est « je te donne ma vie et je ne retiens rien. Tout ce qui est à moi est à toi. Tout ce que je suis est à toi. Tout ce que tu es est à moi. » Tout ce que tu as est à moi. Ça change un peu des mariages que l'on voit très souvent. C'est ce qui est à toi est à moi, et ce qui est à moi est à moi. C'est pas du tout ça. Hein? C'est tout ce que tu as est à moi et tout ce que j'ai est à toi. Est-ce que ça veut dire que dans un mariage, on n'a pas le droit d'avoir deux comptes bancaires différents? Bien sûr que non. Il faut faire preuve d'un peu de maturité. Il devrait y avoir de l'espace. Chacun a le droit de gérer une somme à sa manière sans avoir des comptes à rendre à l'autre tant que tout se passe dans la moralité. Néanmoins, si l'autre se trouve dans une situation difficile, il est normal que toi tu ouvres le tien parce que ça lui appartient. Je parle dans des limites qui sont normales. Si l'autre se trouve dans le rouge parce qu'à chaque fois il se trouve en difficulté à cause des caisses de whisky qu'il a fait venir à la maison, je te donne un conseil, n'ouvre pas ton compte. Fais preuve de sagesse, mais je parle d'une manière saine, S-A-I-N-E, d'accord? Alors une alliance, eh bien, va toucher tous les aspects de la vie. Par exemple, si tu fais appel à un mécanicien, eh bien, le contrat va être sur une certaine durée de temps, le temps qu'il fasse son travail. C'est vrai ou pas? Et ensuite, il te doit pas sa vie, le mécanicien. Est-ce qu'il te doit autre chose? Non! Le mécanicien, une fois qu'il a fait son travail, il encaisse l'argent et il dit au revoir, et puis à la prochaine, et le plus tôt possible en ce qui me concerne. Voilà, c'est ce qu'il va vous dire, hein, grosso modo. Mais il ne vous doit pas sa vie. Si tu fais une alliance avec quelqu'un, cette personne te doit sa vie. Non seulement cette personne te doit sa vie, mais tant que l'un des deux est vivant, l'alliance est valable. Et l'alliance va toucher, affecter non seulement le temps, mais tous les aspects de la vie. Alors, je vais vous montrer un exemple dans 1 Samuel chapitre 18. 1 Samuel chapitre 18, on va voir une alliance qui est passée. Verset 1, « Dès que David eut fini de parler à Saül, Jonathan s'attacha à David et Jonathan l'aima comme lui-même. » Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan conclut une alliance avec David parce qu'il l'aimait comme lui-même. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David, ainsi que ses habits et même son épée, son arc et sa ceinture. David allait partout où l'envoyait Saül et il avait du succès. Ici, on voit que Jonathan et David ont une amitié qui est tellement forte, et c'est une amitié qui est de Dieu, ils vont faire alliance. Une alliance, dans les termes bibliques, c'est quelque chose, ça veut dire couper jusqu'à ce que le sang coule. Entre parenthèses, d'où l'importance du mariage. C'est une alliance. Un mariage n'est pas un contrat. Ça n'est pas un contrat. On est d'accord? Ici, et alors comment ça se faisait? Ben, notamment à la paume de la main, une incision, ou au niveau du poignet, et les deux partenaires d'alliance mélangeaient le sang, et on pourrait dire pourquoi le sang? Parce que selon Lévitique, la vie est dans le sang. Et quand je te donne mon sang, on connaît aujourd'hui les transfusions, hein, quand je te donne mon sang, ça veut dire littéralement, je suis en train de te donner ma vie. Dans une alliance, il est question, ici, non seulement on doit à l'autre, on prend son passif et son actif. C'est vrai que si vous vous mariez avec quelqu'un, vous avez intérêt de savoir, est-ce qu'il est dans le rouge ou est-ce qu'il est dans le vert? Parce qu'une fois que vous avez fait alliance, tout le rouge devient vôtre. Hein? On veut poser certaines questions. Il n'y a pas que la couleur des yeux qui va déterminer le futur, d'accord? Ou les bouquets de fleurs, ou le nom du restaurant dans lequel il ou elle vous amène. Il y a plus que ça. Il y a toute la réalité de l'après-cérémonie. Ici, David et Jonathan étaient deux hommes qui ont passé une alliance. Ils ont échangé la ceinture qui parle de la force, de la ceinture qui tient les reins. Et il dit, je serai ta force. Quand toi tu seras faible, moi je vais rester fort et je viendrai à ton secours. Il est question d'échanger la vie, il est question d'échanger les armes, c'est-à-dire tes ennemis deviennent mes ennemis. Waouh ! Et mes ennemis seront tes ennemis. Regardez avec moi dans 2 Samuel chapitre 9. 2 Samuel chapitre 9. Donc, David a fait alliance avec un ami, avec Jonathan. Et il se trouve que Jonathan et Saül ont été tués au combat. Regardez quelle est la réaction de David. Vous vous rappelez que David, lui, il était le gros gagnant parce que David était un berger. Il n'avait rien à part ses chèvres et quand même de la sagesse. Il avait pas grand-chose. Jonathan, lui, était fils de roi, futur roi, appelé à régner sur le trône. Ça veut dire que tout ce qui était dans la vie de Jonathan est devenu, rien qu'avec l'alliance, à la disposition de David. Verset 1, David apprend donc, il sait que Jonathan est mort, et il dit, « Reste-t-il encore quelqu'un de la famille de Saül pour que j'use de bienveillance envers lui à cause de Jonathan, c'est-à-dire à cause de l'alliance ?» Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tsiba que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, « Es-tu Tsiba ?» Il répondit, « Je le suis, moi, ton serviteur. » Le roi dit, « N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bienveillance de Dieu ?» Et Tsiba répondit au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan perclus des pieds. » Le roi dit, « Où est-il ?» Et Tsiba répondit au roi, « Il est dans la maison de Makir, fils de Amiel à Lodébar. » Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils de Amiel à Lodébar. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba face contre terre et se prosterna. David dit, « Mephibosheth ?» Il répondit, « Voici ton serviteur. » David lui dit, « Sois sans crainte, pour sûr je vais user de bienveillance envers toi à cause de ton père Jonathan. Je te rendrai toutes les terres de ton père Saül et tu mangeras toujours à ma table. » Il se prosterna et dit, « Mais qu'est ton serviteur pour que tu te tournes vers un chien mort tel que moi ?» Et on sait que c'est exactement ce qui s'est passé. Mephibosheth a mangé à la table du roi David, il a retrouvé toutes ses terres et il a été traité comme son père, comme un fils de roi. Remarquez qu'ici, David est à la recherche de celui qui va bénéficier de l'alliance. Quand je dis il est à la recherche, pensez plutôt à un missile à tête chercheuse. Si jamais vous envoyez un missile à tête chercheuse contre un avion, que va-t-il se passer? Le missile va jusqu'à ce qu'il le trouve et là, ici David sait que tant qu'il y a un des deux partenaires ou plusieurs quelquefois, quand il y a entre divers pays, il y a des alliances, tant qu'il y en a un qui est vivant, il est obligé de s'assurer que l'alliance sera respectée. Donc que fait David? David se met à, est toujours vivant, il se met à la recherche d'un des fils, il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui appartient à la maison de Jonathan? Et il se met à le chercher. Dès que Mephibosheth a été trouvé, les bénédictions ont explosé sur lui. Maintenant, on pourrait voir, mais il est dit, il a juré à tes pères. C'est une alliance qui a été faite il y a longtemps. Où a-t-elle commencé? Genèse chapitre 12. Il faut que vous restiez vraiment avec moi. Genèse chapitre 12. L'humanité était séparée de Dieu, mais Dieu voulait trouver un moyen légal pour que les bénédictions aillent sur ceux qui accepteraient de faire confiance en Dieu. Donc, qu'a fait le Seigneur? Dieu a fait une alliance. Dieu le Père a fait une alliance avec Jésus en faveur d'Abraham, qui représentait l'humanité. Regardez au verset 1. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de la patrie, de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai celui qui te maudira. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Ici, Dieu cherche à mettre les êtres humains au bénéfice de l'alliance. Quand quelqu'un fait une alliance avec une autre personne, tout ce que l'autre a, est-ce qu'il est possible peut-être de lui donner un peu de papier à la petite? Parce qu'on va avoir quelques difficultés pour... Et tout ce que l'autre a lui appartient. Bien, Dieu a fait une alliance avec les hommes. Vous réalisez que tout ce que Dieu avait, dans ces cas-là, on devrait être capable de reconnaître qu'Abraham l'a eu. Est-ce que ça s'est trouvé? Regardez au verset, au chapitre 13. Au chapitre 13, au verset 1. Abraham remonta d'Égypte vers le Négueb, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait. Lot l'accompagnait. Abraham était très riche en quoi? En cheptel, en argent et en or. Bien, d'après l'un des livres des prophètes, qu'est-ce qui appartient à Dieu? Dieu a dit, l'or, l'argent et tout le bétail qu'il y a sur les montagnes m'appartient. Qu'a eu Abraham? Les cheptels, l'argent et l'or. Pourquoi? Si tu entres dans une alliance avec quelqu'un, tout ce qu'il a t'appartient. Bien, un des fruits de l'alliance, c'est qu'Abraham a prospéré. Regardez encore un point intéressant au verset 5. Lot, qui accompagnait Abraham, avait aussi du petit et du gros bétail, ainsi que des tentes. Le pays était insuffisant pour qu'ils restent ensemble, car leur bien était si considérable qu'ils ne pouvaient rester ensemble. Lot n'était pas entré directement dans cette alliance, mais il s'était en quelque sorte accroché, il s'était tenu aux côtés de quelqu'un qui avait une alliance, et toute la bénédiction qui était sur Abraham est passée sur Lot. La loi de l'association. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, peut-être, de te rendre compte que tu vas au travail et l'entreprise, elle marche pas très bien, mais quand tu es là, tu commences à prier pour cette entreprise, l'entreprise, elle change. L'école de tes enfants change quand les enfants y vont. Ton quartier change quand tu commences à y habiter. Voilà, ça, c'est la puissance de quelqu'un qui a une alliance avec Dieu. Regardez également dans Genèse chapitre 26. Alors encore une fois, Dieu veut que le corps de Christ prospère. Il faut que l'argent circule. Et pour que tu puisses donner, il va falloir que tu puisses recevoir. Ce qui est certain, c'est quand tu reçois, il vaudra mieux que tu sois assez sensé pour donner en fonction de ce que tu reçois. Mais d'abord, il faut que tu reçois. Tu ne peux pas recevoir si tu n'es pas convaincu de ce qui t'appartient. Et c'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Et Dieu n'est pas limité par ton travail. Dieu a plus d'une idée pour te bénir. Quelqu'un peut venir frapper à ta porte et dire, voilà, sachez que j'ai cet appartement, voilà, je vous ai vu depuis je sais pas combien de temps, vous m'êtes bien sympathique, je voudrais vous le donner. Ma mère m'a dit de ne jamais parler à des inconnus, alors moi je lui adresse pas la parole. Bon, d'accord. Mais, il faut que nous ayons une expectative plus grande que ce que nous n'avons jamais eu. Parce que si Dieu est sur le point de déverser sur la terre, de matérialiser toutes les bénédictions qu'il a promises, ça veut dire que vous et moi allons vivre à un niveau qu'on n'a jamais connu. Bon, qu'est-ce que ça veut dire avoir une alliance avec Dieu? Alors, ça ne veut pas dire qu'on recherche l'argent. On ne recherche pas l'argent. La Bible nous dit clairement que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Ça n'est pas l'argent qui a un problème. C'est l'amour que l'on attache. Quelqu'un qui aime l'argent, c'est quelqu'un qui n'est pas juste. Quelqu'un qui aime l'argent, c'est quelqu'un qui le garde plus que nécessaire. Quelqu'un qui aime l'argent, c'est quelqu'un qui ne peut pas faire la volonté de Dieu. Mais ce que l'on veut, c'est réaliser que le but n'est pas de s'enrichir. Le but, c'est de faire la volonté de Dieu. Maintenant, si tu veux faire la volonté de Dieu, il y a de grandes chances que tu aies besoin de t'enrichir. Moi, j'ai besoin de m'enrichir. Parce que pour moi, faire la volonté de Dieu, ça veut dire énorme, 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 énorme. Payer la radio, payer la télévision, commencer des maisons de retraite, commencer des orphelinats, envoyer des missionnaires, commencer des églises, distribuer plus de livres. Faire la volonté de Dieu, pour moi, c'est énorme. Et je ne peux pas la faire avec ce que je gagne maintenant, ni avec ce que mon église a maintenant. Et toi non plus, d'ailleurs. Toi non plus, tu peux pas faire la volonté de Dieu. Donc, il faut que l'on accepte de s'étendre et de dire, Seigneur, moi, j'ai besoin d'entendre ce que tu veux me confier. Regardez dans Genèse. Donc, l'argent n'est pas un but à atteindre. L'argent est un outil qui nous permet de faire la volonté de Dieu. Est-ce qu'on peut accepter la différence? Ésaïe, chapitre 26. Genèse. Parce que je vais parler d'Isaac. Vous vous rappelez que tant que l'un des deux partenaires d'alliance est vivant, il doit chercher comment faire profiter tous les aspects de la vie de son partenaire d'alliance. Verset 1. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui avait eu lieu au temps d'Abraham, et Isaac alla vers Abimélec, roi des Philistins, à Guérar. Guérar se trouve où? Dans la bande de Gaza. L'Éternel lui apparut et dit, « Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. » C'est-à-dire, « Séjourne dans ce pays-ci, je suis avec toi et je te bénirai car c'est à toi et à ta descendance que je donnerai toutes ces terres. » C'est à personne d'autre. Ensuite, « Je tiendrai ainsi le serment que j'ai prêté à ton père Abraham. » Je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta descendance toutes ces terres. Toutes les nations de la terre se diront bénies en ta descendance. Bien. Ici, on voit que Isaac est dans une situation de famine. Il est dans une situation qui est critique. Et il est en train de penser à déménager. Il dit, non, je peux pas rester dans ce pays. Il faut que j'aille vivre ailleurs. Et le Seigneur lui apparaît et lui dit, tu sais, à cause de l'alliance que j'ai faite avec Abraham, je suis obligé de te bénir. Je me demande si ça s'est fait, verset 12. Isaac sema où ça? Dans ce pays, où ça? À Gaza. Et il récolta cette année, la même année, Genèse 26, 12, il récolta le centuple. Pourquoi? Car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus au point d'être vraiment fort riche. À cause de quoi? À cause de l'alliance. Rappelez-vous, tant que l'un des deux partenaires est vivant, l'alliance est toujours effective. Qui était vivant? Abraham? Non, Abraham était mort. Mais qui était vivant? Dieu. Donc, Dieu a dû chercher qui de la descendance d'Abraham. Et c'était lequel? Isaac. Bon, regardez avec moi dans Genèse chapitre 28. C'est la prochaine, c'est la troisième génération de l'Alliance. Verset 20. Jacob fit un vœu et notez qu'Isaac a été béni là même où il y avait un problème économique. Là où il y avait un problème d'agriculture. La Bible nous dit il y avait la famine. Là où tu te trouves, tu peux quand même prospérer. Peu importe le travail que tu as. Peu importe l'économie de ton pays. Peu importe le prix de la devise. Peu importe si tu sais que tu as une alliance avec Dieu. Mais d'abord, il faut voir, est-ce que Dieu est fidèle à son alliance? Si Dieu n'a pas été fidèle à l'alliance qu'il a faite avec Abraham, tu n'as aucune garantie qu'il sera fidèle avec la tienne, celle qu'il a faite avec toi. Mais si les Écritures que l'on étudie aujourd'hui nous démontrent que Dieu est un Dieu fidèle, alors tu peux prospérer là où tu es. Même si ton patron a dit qu'il ne te donnait pas d'augmentation, être béni, ça veut dire avoir la faveur. Et je l'ai vu. Jacob fit un vœu en disant, verset 20, « si Dieu est avec moi et me garde sur la route où je vais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. C'est-à-dire, il ne sera pas simplement le Dieu d'alliance d'Abraham, il ne sera pas seulement le Dieu de l'alliance d'Isaac, il sera le Dieu de l'alliance de Jacob. Et après, cette pierre que j'ai érigée en stèle sera la maison de mon Dieu, je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Regardez le chapitre 30. Est-ce que Jacob a bénéficié des effets de l'alliance? Verset 43, cet homme s'enrichit. Et le mot en hébreu, c'est « fit une brèche ». Tu sais que dans la prospérité, il y a des brèches. Il y a des stades de prospérité que tu franchis. On ne passe pas de 1 à 1 million. Ça, l'histoire du loto, ça n'a rien de Dieu. La Bible nous dit que les richesses vite acquises sont une malédiction. Parce que quelqu'un qui ne sait pas gérer 1000 euros, croyez-moi que quand il aura 1 million, il lui pètera un câble. Et il fera plus de tort. Il se fera plus de tort à lui-même et aux autres avec 1 million qu'il se fera avec 1000 qu'il n'a pas su gérer. Cet homme s'enrichit de plus en plus. Il eut du petit bétail en abondance, des servantes, des serviteurs, des chameaux et des ânes. Peu importe où on se trouve, on voit que Isaac a semé là où il y avait la famine. Et les Juifs le savent, parce que quand les Juifs ont eu la bande de Gaza, c'était du sable. Et Dieu a béni la terre, Dieu a commandé à la terre de produire, et des fruits et des fleurs sont allés dans le monde entier. Les Juifs sont allés dans le désert à cause de cette alliance qui a été faite avec leur père. Les Juifs sont allés dans le désert du Négev, et aujourd'hui, il y a des sources d'eau, et il y a Dieu avait dit qu'il ferait refleurir le désert. Aujourd'hui, on a des chrétiens, quand ils sont dans des situations inconfortables, qu'est-ce qu'ils font? Ils jeûnent pendant 40 jours, et ils pleurent pendant 40 jours. Ils n'ont rien compris. Si tu as des promesses, c'est pas la peine que tu ailles jouer aux religieux. Tu as des promesses, crois-y. Crois à ces promesses. Parce que le Dieu de l'ancienne alliance est aussi fidèle que sous la nouvelle. Parce qu'à vrai dire, on a de meilleures garanties. Donc ici, on voit, Dieu a fait une alliance avec lui-même pour le bénéfice d'Abraham qui est entré dans cette alliance. Dieu, Abraham est mort, Dieu a cherché. Il dit, ok, qui? Isaac. Isaac est mort, le même Dieu a dit, ok, qui encore? Qui est-ce que je peux bénir? À qui je peux donner ce que j'ai? Jacob a dit, hey, wouhou, je suis ici moi. Et en plus j'ai un besoin, tu es le Dieu de mes pères. Eh ben moi je suis candidat, j'ai un besoin, je suis. Tout ce que tu as est à moi, vas-y. La Bible nous dit, Jacob s'est enrichi. Regardez encore, chapitre 39. Alors on va pas les faire tous parce que ça a bien marché. Et tous, en ayant confiance en Dieu, ont prospéré. On fit descendre Joseph en Égypte, et l'Égyptien Potiphar, chambellan du Pharaon, commandant des gardes, l'acheta aux Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec Joseph. Pourquoi? À cause de l'alliance. Dieu était obligé d'être avec Joseph. Tu sais que tu peux descendre dans un puits. Si tu sais qui est ton Dieu, tu sauras que Dieu est obligé de t'en faire ressortir. L'Éternel fut avec Joseph. Celui-ci réussissait à tous égards. Il était dans la maison de son maître égyptien, c'est-à-dire c'était un esclave qui réussissait. Joseph a été descendu dans une citerne. Dieu l'en a fait remonter. À cause de quoi? À cause de l'alliance. Joseph s'est retrouvé deux fois en prison. Et deux fois en prison, il a eu les positions les plus hautes. Jusqu'à ce que finalement, regardez, Genèse chapitre 41. Waouh! Dans l'alliance, il y a les bénédictions matérielles. Il faut vraiment faire tous les efforts pour croire que Dieu nous veut dans la pauvreté. Genèse 41, verset 38. Et moi, en tant que pasteur, j'ai intérêt à vous prêcher la prospérité parce que votre prospérité a un effet immédiat sur les dîmes qui rentrent dans cette église. Donc, j'ai intérêt à vous prêcher la vérité. Moi, les pasteurs qui prêchent la pauvreté, je ne les comprends pas. Je ne comprends pas. Genèse 41, vous avez trouvé verset 38. Est-ce que vous êtes rentré à la maison ou vous voulez entendre la suite? Donc, Joseph a interprété un rêve du Pharaon, verset 37. Cette parole plut au Pharaon et à tous ses serviteurs. Et le Pharaon leur dit, pourrions-nous trouver un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Le Pharaon dit à Joseph, dès lors que Dieu t'a fait connaître tout cela, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. C'est toi, un esclave. Il était en prison. C'est toi qui seras à la tête de ma maison. Et tout mon peuple dépendra de tes ordres. Vous voulez de la promotion? Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Joseph, à cause de l'alliance, parce qu'il connaissait son Dieu. Mais vous savez quoi? Non seulement il connaissait son Dieu, mais il a respecté le Dieu de l'alliance. On ne peut pas vivre n'importe quoi et croire que cette alliance ne va pas avoir... Et qu'est-ce qu'il y a entre le fait que l'alliance soit... Qu'est-ce qui peut empêcher l'alliance d'être agissante dans notre vie? Simplement le péché. Il n'y a rien d'autre parce que Dieu ne change pas. Le Dieu de l'alliance ne change pas. Donc si l'alliance n'est pas aussi efficace que nous le montrent les Écritures, c'est parce que c'est nous qui avons besoin de changer. On a besoin de connaître notre Dieu, on a besoin d'avoir plus de foi en lui, et si on a des choses à régler dans notre vie, eh bien débarrassons-nous de ces choses. Amen. Regardez également ici, parce que c'est pas tout, hein, c'est quand même une bénédiction, dans 1 Chronique, chapitre 29, on va continuer à parler de l'alliance, parce que Dieu veut faire prospérer son Église. Et croyez-moi, je ne m'en excuserai pas de le prêcher. 1 Chronique, chapitre 29, verset 2. Voilà ce que David dit. Il dit, j'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu. De l'or pour ce qui doit être d'or, de l'argent pour ce qui doit être d'argent, du bronze pour ce qui doit être de bronze, du fer pour ce qui doit être du fer, et du bois pour ce qui doit être de bois, des pierres d'onyx, des pierres à enchâsser, des pierres brillantes et de diverses couleurs, toutes sortes de pierres précieuses et du marbre blanc en quantité. De plus, dans mon attachement pour la maison de Dieu, je donne à la maison de mon Dieu, personnellement, hein, l'or et l'argent que je possède en propre, par-dessus tout ce que j'ai préparé pour le lieu saint. Vous voulez entendre ici? 3000 talents d'or d'Ophir, et 7000 talents d'argent épuré pour en revêtir les parois des bâtiments. Vous savez ce qu'il a donné? Sous l'Ancien Testament, vous savez ce qu'il a donné? Environ 1 milliard, à lui tout seul. Bien, comment est-ce que David a commencé dans la vie? Un berger qui gardait ses troupeaux. Là, on le voit à la fin de sa vie, et il est capable de donner à lui tout seul 1 milliard, à cause de qui? À cause de l'alliance. À chaque fois que Dieu trouve quelqu'un à qui donner, cela veut dire que Dieu revient à Genèse chapitre 12 verset 1 et il dit, j'avais dit qu'en Abraham toutes les nations seraient bénies. Et quand Dieu parle de bénédiction, il ne parle pas de 10 euros. Il est temps que l'église de Jésus-Christ accepte de penser comme Dieu, ait peur des chiffres. Il est temps que l'église de Jésus-Christ s'éloigne de tout esprit de pauvreté. Parce que Dieu veut faire de grandes choses au milieu de nous et par nous. Mais qu'est-ce qui l'empêche? Pas lui, il n'a pas changé. Mais il y a encore autre chose. Regardez le verset 6. Les chefs des familles, les chefs des tribus d'Israël, les chefs de milliers et de centaines, et même les chefs de travaux du roi se portèrent volontaires. Ils donnèrent pour le service de la maison de Dieu. 5000 talents d'or, 10000 d'argent, 10000 talents d'argent, 18000 talents de bronze et 100000 talents de fer. Ils remirent aussi entre les mains de Yehiel, le Gershonite, tout ce qui se trouva comme pierre pour le trésor de la maison de l'Éternel. Vous savez ce qu'ils ont fait, ces gens-là? Ils ont doublé ce que David a donné. Vous dites, oh ben, oui, fastoche. Pas si fastoche que ça. David, lui, a commencé dans la vie comme berger. C'était le plus jeune, il était méprisé de tous ses frères. Ensuite, il a servi le roi Saül qui a voulu le tuer à plusieurs reprises et qui n'a jamais changé d'avis, même jusque dans sa mort. Vous parlez de bien démarrer dans la vie. Et quand David a commencé à être élevé pour être le roi qui allait succéder à Saül, quand Dieu a commencé à le mettre en position de leadership, il y a des hommes qui ont dit « Nous, on vient avec toi ». D'après la parole de Dieu, vous pourrez relire. Vous savez qui étaient ces gens? C'était pas des banquiers, des docteurs, des commerciaux qui avaient du succès. C'était des hommes qui étaient dans la détresse, mécontents et dans les dettes. À la fin de la vie de David, regardez, ces mêmes hommes sont capables de donner avec générosité pour l'œuvre de Dieu. Waouh! Il vaut mieux que l'on sache qui est notre Dieu. Est-ce que notre Dieu est un Dieu qui accomplit ses paroles? Est-ce que pour Dieu, l'alliance a une signification? Oui, bien sûr que ça a une signification. Alors vous pouvez dire, ben oui, mais pasteur, ça me fait plaisir de savoir que les Juifs prospèrent. Hein? Seulement, de toi à moi, de moi à lui, j'ai pas une goutte de sang juif en moi. Ce qui veut dire que si tu te souviens bien, la promesse faite à Abraham, c'est que je ferai de toi une bénédiction, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et je ferai de toi une source de bénédiction. Toutes les nations seront bénies en toi. Donc, que nous soyons juifs ou que nous ne soyons pas juifs, il y a la possibilité d'être béni, comme Abraham. Vous rappelez que Dieu a dit à Abraham, il a dit, je rendrai ta postérité grande. Il dit, si tu veux savoir à quel point elle sera grande, il dit, compte les étoiles qui sont au ciel et compte le sable qui est sur le, compte les grains de sable qui sont devant toi. Bien. Vous croyez que Abraham a eu le temps de compter les étoiles qui étaient au ciel? Oui, toutes les nuits, quand il gardait ses troupeaux dans le désert, il pouvait compter. Waouh, il n'avait pas encore un enfant. Mais Dieu a dit que j'aurais une postérité aussi grande que celle-là. Et quand il marchait dans le désert, à chaque fois que ses pieds foulaient le sable, c'est pas possible. Je vais avoir autant d'enfants. Il y avait un symbole, les étoiles du ciel parlaient de la postérité spirituelle d'Abraham et le sable. Les grains de sable parlaient de la postérité naturelle des Juifs selon la chair. Nous, on se situe où maintenant? Regardez avec moi dans Galates chapitre 3. Alors dites-moi, si ça c'est pas un bon message, je sais pas ce que c'est. Hein. Et si vous encouragez un petit peu plus, il pourrait même être meilleur. Et si vous étiez reconnaissant au Seigneur pendant que je prêche, il pourrait même nous donner plus. Allez, hein? On a bien fait de venir à l'église ce matin, hein? Ok, regardez ce qu'il est dit, parce que, encore une fois, où est-ce que je me trouve dans la bénédiction d'Abraham? La bénédiction d'Abraham, l'alliance que Dieu a faite en incluant Abraham, qu'il a faite avec lui-même en incluant Abraham, a enrichi Abraham. Et ensuite, Dieu, comme une tête chercheuse, a dit quel est le prochain, Isaac, quel est le prochain, Jacob, quel est le prochain, Joseph, quel est le prochain. Je me demande, si l'alliance est arrivée jusqu'à nous. Vous avez trouvé Galates chapitre 3, verset 13. Christ, vous êtes avec moi? Vous voulez entendre la fin ou pas? Parce que c'est la meilleure, hein. Croyez-moi que c'est la meilleure, là. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit soit quiconque qui est pendu au bois. Bon. Alors, ici, il nous est dit que une des choses que Christ a faites, c'était de nous racheter de la malédiction de la loi. c'est bien de savoir que nous avons été rachetés de la malédiction. Mais ma vraie question est, rachetés de, mais rachetés pourquoi? Si j'ai été racheté de la malédiction, j'ai été racheté pourquoi? Pourquoi le prix a-t-il été payé? Verset 14, c'est écrit noir sur blanc, afin que les païens, c'est-à-dire que les non-juifs, que pour les non-juifs, la bénédiction d'Abraham se trouve où ça? En Jésus-Christ. Si tu veux savoir où se trouve, si tu veux savoir comment avoir accès à la bénédiction d'Abraham et vivre avec tous les effets de l'alliance, tout ça se trouve où ça? En Jésus-Christ. Quand tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu rentres dans l'alliance faite entre Dieu et Jésus-Christ et tu te trouves au bénéfice de la promesse qui a été faite à Abraham. Regardez avec moi dans le verset 7, il est dit, reconnaissez-le donc, ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham. Il est dit qu'Abraham est le père de tous les croyants. Pourquoi? Parce que par sa foi, il a montré comment être rendu juste, comment être en règle avec Dieu. C'est pas par les œuvres qu'on est en règle avec Dieu, c'est par la foi. Et il a dit, c'est ce que le Seigneur dit ici lui-même. Il dit, ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les non-juifs par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui ont la foi sont bénis avec Abraham le croyant. Verset 29, si vous êtes à Christ, qui est à Christ ici? Si vous êtes à Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Il y a une alliance que Dieu a faite avec Abraham et qui n'appartient pas à l'Église. C'est l'alliance qui s'attache à la terre d'Israël. La terre d'Israël n'appartient pas à l'Église. L'Église ne remplace pas les Juifs. Non, l'Église, c'est l'Église et le peuple juif a une alliance avec Dieu. Concernant la terre d'Israël, elle n'appartient pas à l'Église, elle appartient aux Juifs. Néanmoins, la promesse d'être béni, celle-là est passée d'Abraham, a été manifestée en Isaac, a été réalisée en Jacob, a été déployée en Joseph, elle est passée à David, elle est passée à Salomon, elle est descendue jusqu'à Jésus, descendant de David. C'est une des raisons pour lesquelles Jésus ne pouvait pas être pauvre, parce qu'il était fils d'Abraham. Mais ensuite, en Jésus, Dieu a perfectionné cette alliance et il a dit, maintenant, je vais faire en sorte que toutes les nations soient incluses dans cette bénédiction. Maintenant, si tu veux rester pauvre, eh bien, dans ces cas-là, argumente avec Dieu, parce que la parole de Dieu est claire. Rappelez-vous, on est dans des temps où Dieu est en train de chercher des gens qui vont penser comme lui, qui vont arrêter de penser petit, qui vont arrêter de penser SMIC. C'est bien d'être au SMIC. Si on a besoin d'être au SMIC, bon, on démarre là. Mais ne restons pas là. Dites, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me donner? Des idées nouvelles, un emploi nouveau, une adresse nouvelle, des relations nouvelles. Tu veux me donner la faveur, tu veux faire prospérer les actions. Seigneur, montre-moi. Mais une chose que je sais, je n'ai pas besoin d'essayer de connaître tous les détails. Dieu a dit qu'il me bénit, ça me suffit, il me bénit. C'est-à-dire que parce que je crois, en ce moment, l'argent est en train de me chercher. L'argent est en train de me dire, mais où habite Marie-Hélène Moulin? Où habite Marie-Hélène Moulin? Bénédiction. Et il me trouve. Il ne fait pas de me chercher, il me trouve. Hein? Parce que c'est comme ça la bonne chute, hein? Rappelez-vous la parole, je ne sais même pas si Rick Renner a réalisé ce qu'il disait. Cette parole ne m'a pas quitté, il faut que l'argent circule. Et l'argent a besoin de passer de cette adresse à la nouvelle adresse. Là, on va nous montrer un bâtiment, 3 000 euros le la location. Voilà, certains, ça y est, ils sont déjà tombés dans les pommes. Ranimez-vous pour réécouter la cassette. Il y a aussi un autre lieu et alors, tout ce qu'il faut, c'est savoir où est la volonté de Dieu. C'est quand on a fait cette conférence à Nice, on n'avait pas un centime quand j'ai signé le contrat. Et la location de la salle, combien était le budget? Non, parce que la location de la salle, c'était plus de 10 000 euros, mais ça c'est rien. Combien? 37 ou 39 000 euros. En 5 jours. Voilà, c'est d'autres maintenant qui sont tombés dans les pommes. Bon. Mais vous savez, Dieu a pourvu. Avec abondance. Et je vais vous dire, c'est pas assez. Il faut qu'on déménage d'ici. Et pour qu'on déménage d'ici, il faut que vous acceptiez de prospérer. Donc, si vous n'êtes toujours pas d'accord, réécoutez la cassette. D'accord? Il y a d'autres messages qui ont... Vous dites, c'est quoi? Ben, c'est quoi? Je vais vous dire, heureusement que cette église prospère. Parce que j'étais bien contente de donner de l'argent hier au pasteur Norman pour qu'il reparte à l'île Maurice et qu'il s'achète son appareil pour enregistrer les cassettes. C'est ce qu'on a fait. Je suis bien contente que cette église prospère parce qu'il était heureux de recevoir de votre part à tous ces deux nouveaux ensembles qui vont lui permettre de prêcher comme un homme de Dieu doit prêcher et de représenter son église. Je suis bien contente que cette église prospère parce qu'on peut acheter du matériel qui nous permet d'avoir une meilleure qualité de son et pour que vous puissiez être mieux assis. Je suis contente que cette église prospère pour les orphelinats qu'on va construire, pour les maisons de retraite qu'on va ouvrir. Mais cette église ne peut pas prospérer sans toi. Alors n'essaie pas de dire à Dieu ce qu'il doit faire, mais toi tu as besoin de mettre ces paroles de prospérité dans ta bouche, et même si tu es dans un temps de famine, tu as besoin de semer, tu as besoin de déclarer ta foi, et tu as besoin de croire jusqu'à ce que la manifestation soit réalisée dans ta vie. Et que tu vives, j'espère que tu n'auras pas de cesse de parler ce que Dieu dit jusqu'à ce que tu vives au niveau où Dieu dit. Maintenant, je vais te dire une chose. Dès que tu auras atteint un niveau et que tu diras, Seigneur, waouh, alors maintenant, ça va bien. Ça va bien. Regarde, Seigneur, tiens, je viens de donner ma voiture, là, à cette famille. Et puis là, j'ai cet appartement, là. Mais il y a cette famille de missionnaires qui l'occupe pendant 2-3 mois, histoire de décompresser un petit peu. Waouh, moi, ça va bien. Et Dieu te mettra un autre projet à cœur en disant, non, j'ai besoin que tu donnes davantage. Maintenant, écoutez-moi, les jeunes. Les jeunes, vous êtes à l'école, et je le dis par l'Esprit de Dieu, et je prie afin que vous n'oubliez jamais cela. Dieu va vous rendre prospère. Un, parce que vous êtes bénis d'être dans une famille qui est en train de mettre la parole de Dieu en vous. Seulement, quand vous vous prospérez à votre tour, n'oubliez pas l'œuvre de Dieu. C'est tout ce que je peux vous dire. N'oubliez pas l'œuvre de Dieu. Si vous êtes dans cette église, gloire à Dieu. Hein? Gloire à Dieu, votre pasteur sera content de vous revoir. Si vous êtes dans une autre église, bénissez cette église, bénissez cette œuvre. Parce que l'argent, il va pas arriver seulement que dans les mains des plus de 40 ans. Non. Voilà, je dis que je prêche mieux que ce que vous réagissez. Je dis l'argent ne va pas arriver seulement dans les mains des plus de 40 ans. Il y a des jeunes qui vont avoir de l'argent comme cela. Ils vont même pas savoir d'où ça vient. Rappelle-toi ton Dieu. Et parents, enseignez à vos enfants dès maintenant à mettre leur dîme dans le panier des offrandes. Parce que le jour où Dieu les bénit, ils ne changeront rien à leurs habitudes. Dieu passera en premier. Et les parents disent Amen. Est-ce que vous avez été bénis ce matin? Non? Bon, ben moi je l'ai été, alors ça c'est bien, je suis contente d'être venue. Ça vaut de l'or, c'est le cas de le dire. Un message comme ça, ça vaut de l'or. Pourquoi vous êtes assis ici aujourd'hui? Pourquoi certains vont entendre la cassette? Vous savez pourquoi? Pourquoi Dieu s'est arrangé pour que cette parole arrive jusqu'à vous aujourd'hui? Question intelligente. Parce qu'il veut confirmer l'alliance qu'il a jurée à Abraham. Il veut Il veut passer pour quelqu'un qui tient sa parole. Quand il a dit que toutes les nations seront bénies en Abraham, alors nous, on fait partie des nations. Et quand on prospère, on dit, waouh, Seigneur, tu as dit, tu as accompli. Si dans ce domaine de ma vie, tu es vrai, alors dans tous les autres aussi, tu l'es. Bon, quelqu'un se lève et dit merci, Seigneur. Non, excusez-moi, vous êtes plus radin que Dieu, hein. Alors là, et vraiment, quelqu'un remercie avec signification le Seigneur. Merci mon Dieu. Allez-y, faites monter vos louanges à Dieu. Ça vous évitera de rester dans le désert. Merci mon Dieu pour tout ce que tu as pour ton église en général. Merci parce que la prospérité arrive sur toutes les églises, Seigneur. Merci parce que tous les pasteurs font ce qu'ils ont à cœur de faire. Merci parce que les hommes d'affaires prospèrent, les ménagères prospèrent, les enfants prospèrent. Merci parce que tu déverses, Seigneur, tes flots de bénédiction au nom de Jésus. Amen.
Nous espérons que ce message vous a plu et qu'il a été pour vous une véritable source de bénédiction. Ce message a été diffusé par le ministère enseigne-moi.com. Nous vous invitons à visiter notre site internet www.enseignemoi.com sur lequel vous pourrez écouter et commander des centaines de prédications. Que le Seigneur Jésus vous bénisse.